Bonjour, le secrétaire général va vous parler de la ministérielle, puis il écoutera vos questions. Bonjour, les ministres de la Défense se réuniront ici demain et le surlendemain et pour aborder les questions de sécurité les plus pressantes. Nous allons parler de la violation par la Russie du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. Moscou poursuit le développement et le déploiement de plusieurs bataillons des missiles SSC-8, et ce malgré les efforts des États-Unis et des autres alliés durant plusieurs années, les appelant à retrouver la voie de la conformité à ce traité. Nous savons qu'un traité qui n'est respecté par une seule partie ne pourra pas assurer notre sécurité. C'est la raison pour laquelle les États-Unis, avec le soutien de tous les alliés de l'OTAN, a annoncé son intention de se retirer du traité. Cette mesure entrera en vigueur en l'espace de 6 mois. La Russie dispose donc d'une dernière occasion pour adopter la voie de la responsabilité, de retrouver la conformité et de sauver le traité FNI. Nous exhortons la Russie à saisir cette chance. En même temps, nous planifions pour un monde sans le traité FNI. Lors de cette réunion des ministres de la Défense, nous allons aborder les mesures que devrait prendre l'OTAN pour s'adapter à un monde avec plus de missiles russes, tout en maintenant une dissuasion et une défense efficaces. Je n'émettrai pas d'hypothèse sur ces mesures, mais je peux déjà affirmer que toute mesure sera coordonnée, responsable et défensive. Nous n'avons pas l'intention de déployer des nouveaux missiles nucléaires basés sur Terre en Europe. En même temps, nous restons engagés sur les efforts de maîtrise des armements et de non-prolifération. Et l'OTAN ne souhaite pas une nouvelle course aux armements, ce serait dans l'intérêt de personne. Nous allons également dialoguer au sujet de la dissuasion et de la défense de l'OTAN de manière plus générale, avec notamment les travaux sur la nouvelle initiative pour la réactivité, ce qui ajoutera à notre disponibilité opérationnelle 30 navires de combat, 30 bataillons terre et 30 escadrons air disponibles en 30 jours. Le partage du fardeau et les dépenses de défense seront également au programme. Tous les alliés ont présenté des rapports annuels sur les plans nationaux en vue de satisfaire l'engagement en matière d'investissement de défense. Et nous allons faire l'examen des progrès accomplis selon les trois dimensions de cet engagement, les ressources, les capacités et les contributions. Pour ces trois mesures, la tendance est à la hausse. Depuis 2016, les alliés européens et le Canada ont dépensé 41 milliards de dollars de plus en matière de défense, et en fonction des rapports, cette augmentation sera de 100 milliards de dollars d'ici l'année prochaine. Les alliés investissent davantage dans les capacités modernes et contribuent plus de force à nos missions et à nos opérations. Il nous reste du travail à faire, mais je suis très encouragé par les progrès importants réalisés jusqu'à présent. Nous allons également parler des missions et des opérations de l'OTAN en Afghanistan, en Irak et au Kosovo. En Afghanistan, la situation demeure délicate, mais des efforts sont en cours en faveur de la paix. Les alliés ont été tenus au courant de la situation par les États-Unis et nous menons des consultations sur les conséquences d'un éventuel accord de paix et comment l'OTAN peut le soutenir. Hier, nous avons rencontré l'envoyé des États-Unis, l'ambassadeur Khalilzad. C'est la troisième fois en l'espace de quelques semaines que nous le rencontrons. Il est trop tôt pour dire si un accord sera signé. L'OTAN continue à aider les forces de sécurité afghanes à mettre en place les conditions nécessaires pour une solution pacifique. Une chose est sûre, nous sommes entrés en Afghanistan ensemble, et c'est ensemble que nous déciderons de notre posture future en fonction des conditions que nous décidons avec les Afghans. En Irak, notre nouvelle mission de formation suit son cours. Notre soutien permettra à l'Irak d'empêcher la réémergence de Daesh ou de d'autres groupes terroristes. Nous allons également parler de la mission KFOR qui a apporté une contribution importante à la stabilité dans les Balkans occidentaux depuis 20 ans. En même temps, nous ferons l'examen du niveau de soutien pour la force de sécurité du Kosovo compte tenu de son changement de mandat. Une session sera consacrée à la coopération entre l'OTAN et l'UE et les efforts de l'UE en matière de défense. Ces efforts, de manière adaptée, permettront de renforcer le pilier européen de l'OTAN et mèneront à un partage du fardeau plus équitable. Mais, bien sûr, les efforts de l'Union européenne en matière de défense ne peuvent pas remplacer l'OTAN. Nos efforts doivent donc être complémentaires et non pas en concurrence les uns avec les autres. En guise de conclusion, je peux vous dire que je me réjouis qu'à l'occasion de cette réunion, nous souhaiterons la bienvenue pour la première fois à notre collègue de Skopje, la ministre Radmila Sekerinska. La future République de Macédoine du Nord a désormais une place à la table de l'OTAN. Je suis prêt à entendre vos questions. Nous allons commencer avec l'agence France Presse. Bonjour, Damon Wake de l'AFP. Est-ce que vous prévoyons des dialogues avec la Russie dans l'avenir proche et quel sera le message que vous allez leur donner, mis à part une répétition à nouveau de ce retour à la conformité? Nous allons dialoguer avec les Russes au sujet de la question FNI. Nous avons rencontré récemment la Russie dans le Conseil OTAN Russie et l'un des thèmes principaux était le traité FNI et les violations par la Russie de ce traité. C'est une question très importante car ces missiles sont difficiles à détecter, ils sont très mobiles, le temps de préavis est très restreint et leur portée couvre beaucoup des villes européennes. Et avec cette réduction du délai de préavis, le seuil de l'emploi d'armes nucléaires s'en trouve réduit également en cas de conflit armé. Nous allons donc aborder ce thème. Nous le ferons de nouveau en Conseil OTAN Russie, mais également lors de dialogues directs avec les Russes. Ce sera donc une question qui sera traitée lors de la conférence de sécurité de Munich, par exemple, car tous les alliés de l'OTAN sont préoccupés par le fait que cette pierre angulaire de la sécurité européenne se trouve compromise et nous exhortons la Russie à retrouver la voie de la conformité tout en planifiant pour un monde sans traité FNI et avec plus de missiles russes. Nous ne sommes pas obligés de refléter simplement ce que fait la Russie, mais nous devons adopter des mesures décisives en matière de défense. KTV Kosovo. Monsieur le secrétaire général, pouvez-vous nous expliquer comment cette coopération future de l'OTAN avec la force de sécurité du Kosovo aura lieu? Et le désaccord actuel avec la Serbie aura-t-il une incidence sur la décision? Il est important de faire la distinction entre deux types de présence de l'OTAN au Kosovo. Il y a l'opération de la KFOR qui ne sera pas efficace. Celle-ci, avec ses 3 ou 4 000 troupes, est présente depuis de nombreuses années, 20 ans d'ailleurs, et ce sur la base d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Cette présence se poursuivra car elle contribue à la stabilité et protège le peuple kosovar tout en contribuant à la stabilité plus générale de la région. Cette présence demeurera. Ce que nous évaluerons, ce sont les activités ne relevant pas de la mission de la KFOR, à savoir donc des efforts de développement capacitaire. Et nous n'avons pas pris de décision. Nous allons cependant évaluer le degré de participation de l'OTAN, car plusieurs alliés estiment que la décision de transformer la force de sécurité du Kosovo en armée arrive à un moment inopportun. Et ils ont également exprimé leur leur mécontentement à propos des nouveaux tarifs. Et ils ont également déclaré que les forces de sécurité du Kosovo doivent respecter leurs engagements, dont l'accord de Bruxelles, à savoir de ne pas se déplacer vers le Kosovo du Nord sans l'accord ou le soutien du commandant de l'OTAN, du commandant de la KFOR. Toutes ces questions seront traitées en session. Il est trop tôt de dire quels seront les ajustements, mais nous allons en tout cas en parler. Alf Jonsson, VG, quotidien norvégien. Nous avons entendu, après l'exercice Trident Juncture en Norvège l'automne dernier, qu'il y a eu des activités russes dans tous les domaines, dont des activités de perturbation des signaux GPS quotidiennement durant l'exercice, que ce soit en Norvège ou en Finlande, représentant un danger pour la circulation, le trafic aérien civil, par exemple. L'OTAN a-t-il tenu compte de ces incidents? Quelles sont les réponses que vous avez reçues? Et d'autres alliés ont-ils connu de telles perturbations dans les signaux GPS? Nous avons parlé de la sécurité aérienne à plusieurs reprises avec la Russie. C'est une problématique particulièrement pertinente en mer Baltique, mais qui est également importante de manière générale. Compte tenu de l'importance des signaux GPS pour le trafic aérien civil et notamment pour la recherche et le sauvetage, les services de sauvetage d'urgence, un brouillage de ces signaux est un événement très grave, comme nous l'avons constaté en Norvège ou en Finlande. Le brouillage de ces signaux représente un danger, c'est un comportement irresponsable. C'est la raison pour laquelle la Norvège et d'autres alliés de l'OTAN ont exprimé de telles préoccupations au sujet de ces mesures. Et c'est la raison pour laquelle l'OTAN signalera tous ces problèmes liés à la sécurité aérienne à la Russie, car cela sape les efforts de coopération avec la Russie. Certains alliés, notamment la Norvège, ont des efforts de coopération avec la Russie en matière de recherche et de sauvetage. Tout brouillage de signaux GPS remettra en question des efforts de recherche et de sauvetage des Norvégiens, mais également ceux des Russes qui pourraient avoir besoin d'aide dans le Grand Nord. Monsieur Hamidi, Pajwak News. Ma question porte sur les efforts de paix en Afghanistan. Compte tenu de vos réunion récente avec l'ambassadeur Khalilzad, quelles seraient les étapes qui permettraient de faciliter les pourparlers entre le gouvernement afghan et les talibans? Nous sommes en faveur de la réconciliation afghane et les efforts doivent inclure le gouvernement afghan. Cela sera traité dans le cadre de mes dialogues avec le gouvernement. Et je félicite le président Ghani d'avoir adopté une telle initiative de lancement du processus de paix en annonçant l'été dernier un cessez-le-feu, tout en lançant des pourparlers pour réfléchir au processus de paix. Une paix durable en Afghanistan ne sera possible qu'avec une réconciliation nationale, avec la participation du gouvernement légitime et élu de l'Afghanistan, qui aura un rôle essentiel à jouer dans tout accord de paix. Le rôle de l'OTAN est en partie d'assurer un soutien politique au processus de paix, où le gouvernement a un rôle essentiel à jouer, ainsi qu'un soutien militaire de conseil d'assistance et de formation dans le cadre de la mission Resolute Support afin de mettre en place les conditions nécessaires à un accord de paix et en envoyant un message aux talibans que leur victoire ne se fera pas sur le champ de bataille, mais autour d'une table de négociation. Nous assurerons ce soutien. L'objectif de notre présence militaire est de mettre en place les conditions pour la paix et nous voyons maintenant quelques évolutions positives.
Lady in the first row there, please. This is ICTV Ukraine.
ICTV Ukraine. Les Ukrainiens souhaitent intégrer, j'habite sur l'OTAN, au sein de la Constitution. Est-ce que ça pourrait aider l'Ukraine à devenir membre de l'OTAN? Réponse. L'Ukraine est un partenaire très important pour l'OTAN. Nous appuyons l'Ukraine de différentes façons, avec des fonds d'affectation spéciales, des programmes divers. Nous aidons l'Ukraine à moderniser ses institutions de défense, de sécurité. Nous proposons des formations, un renforcement capacitaire également, s'agissant par exemple des forces navales. Nous coopérons beaucoup avec l'Ukraine et j'encourage tous les alliés à en faire plus, car une partie de cela se fait dans le cadre de l'OTAN, mais il y a des activités qui se font de façon bilatérale. Donc tout cela vise à aider l'Ukraine sur la voie de l'intégration euro-atlantique, à moderniser et réformer ses forces armées, y compris s'agissant de la lutte contre la corruption. Question. Terry Schultz. Les nouveaux sondages, donc avant la conférence de sécurité à Munich, montrent que si on demande aux citoyens à qui ils font confiance, les citoyens allemands et français ont plus confiance en Poutine qu'à Trump. C'est tout à fait inquiétant. Est-ce que vous avez l'impression que cela a une incidence également sur ce qui se passe à l'OTAN? Réponse. Il y a 29 pays membres au sein de l'OTAN qui sont donc 29 démocraties. De ce fait, il y a des positions différentes, des perspectives différentes entre alliés s'agissant des questions de sécurité, de défense. Mais malgré ces différends qui existent entre les pays membres de l'OTAN, l'OTAN a toujours pu démontrer que tous les pays membres de l'OTAN sont unis autour d'un seul objectif, garantir notre sécurité. Et ce que nous constatons actuellement, c'est que les États-Unis renforcent leur présence en Europe. Les États-Unis sont clairement engagés. S'agissant de l'OTAN, ce ne sont pas que des paroles. Les États-Unis ont donc renforcé leur présence. Il y a plus d'exercices, plus d'investissements en matière d'infrastructures en Europe. C'est également vrai, d'ailleurs, de la part des alliés européens. Alors, je ne vais pas vous parler plus avant de ce sondage, mais moi, ce que je constate, c'est ce qui se passe sur le terrain. Les alliés européens et le Canada déploient plus d'efforts aujourd'hui, les États-Unis également, et ce, plus que depuis de nombreuses années. Radio Free Europe, question. Monsieur le secrétaire général, avez-vous quelque chose à dire au sujet de la déclaration du ministère de la Défense britannique qui a mentionné, qui a parlé de ce que signifiait le Brexit pour la défense britannique, notamment pour ce qui est de la létalité des armes? Réponse. Le Brexit, évidemment, a modifié la relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, mais pas entre le Royaume-Uni et l'OTAN. Au contraire, puisque au sein de l'OTAN, on retrouve des alliés européens, certains membres de l'Union européenne, d'autres non. En plus, il y a les États-Unis et le Canada. Et donc, comme enceinte de coopération, je pense que l'OTAN va jouer un rôle encore plus important s'agissant du Royaume-Uni. Alors, le discours du secrétaire de la Défense Williamson a mentionné le leadership et l'engagement du Royaume-Uni au sein de l'OTAN. Et l'OTAN, d'ailleurs, est un modèle en investissant plus de 2% de PIB en matière de défense. Et ce, depuis plusieurs années, le Royaume-Uni propose des capacités de pointe du haut du spectre pour la défense de notre territoire et pays cadre pour le bataillon en Estonie, et donc j'ai grandement apprécié ce message clair et fort du ministre de la Défense britannique, et je serai très heureux de l'accueillir personnellement demain ici pour la ministérielle.
Yeah. Yeah, thanks.
Ansgar Hase from DPA, Secretary General.
Question. Pour ce qui est des dépenses en matière de défense, combien d'alliés sera en mesure d'atteindre l'objectif de 2% en 2024 conformément aux plans nationaux qui vous ont été remis. Réponse. La majorité des alliés ont des plans qui prévoient d'atteindre les 2% d'ici 2024. J'espère que lorsqu'on nous remettra des plans révisés, il y aura encore plus d'alliés qui seront en mesure d'atteindre ou qui prévoiront d'atteindre ces 2%. Et même pour les alliés qui ne prévoient pas d'atteindre 2% d'ici 2024, les dépenses sont à la hausse, donc la direction prise est bonne. C'est le cas, par exemple, pour l'Allemagne. Il y a donc des dépenses de défense à la hausse en Allemagne et le plan actuel propose une augmentation de 80% pour ce qui est des investissements en matière de défense d'ici 2024. Donc cela est très important car l'Allemagne est la principale économie européenne et évidemment ce type d'augmentation a des répercussions importantes. Vous savez que maintenant, il n'y a plus aucun allié qui est en train de réduire les dépenses en matière de défense et tous les alliés sont en train de revoir ces dépenses à la hausse. Question. Politico. Vous allez rencontrer la haute représentante Mogherini également. Il y a certains doutes s'agissant de l'engagement des États-Unis envers l'OTAN, envers l'Europe de manière générale. Et certains estiment que l'OTAN est un obstacle à la coopération européenne en matière de défense, que l'OTAN n'apprécie pas, par exemple, l'armée européenne qui a été proposée par Macron pour ce qui est de la coopération européenne et que, donc, en fait, les États-Unis souhaitent que l'OTAN reste un obstacle à cette coopération européenne. Réponse. Pour moi, l'OTAN et l'Union européenne ont des efforts qui doivent être complémentaires. Et dans ce cas-là, je pense que les efforts de l'Union européenne seront là pour renforcer le pilier européen de l'OTAN. Je pense que le CSP permettra de développer de nouvelles capacités, renforcer les investissements de défense, amoindrir la fragmentation de l'industrie de défense européenne et cela permet de renforcer les alliés européens. Et puisque nous avons un seul ensemble de forces, évidemment, que ce soit au sein de l'Union européenne ou au sein de l'OTAN, si les alliés européens renforcent leur défense, c'est bon pour l'OTAN. Tant qu'il n'y a pas de doublons ou tant qu'il n'y a pas cette mauvaise interprétation, à savoir que l'Union européenne souhaite remplacer l'OTAN en matière de défense. Car nous savons que l'OTAN a un rôle essentiel à jouer. Il y a beaucoup de coopération entre les alliés européens en OTAN pour ce qui est les exercices. Nous coopérons étroitement même avec des pays membres de l'Union européenne qui ne sont pas membres de l'OTAN, comme la Suède et la Finlande, qui ont participé par exemple à Trident Juncture. Trident Juncture, c'est le plus grand exercice de l'OTAN qui permet de réunir les alliés européens. La plupart de ces alliés sont membres de l'Union européenne et je pense que l'OTAN permet d'encourager ces initiatives européennes et je pense que l'initiative de défense européenne et la CSP permettront de renforcer le pilier européen de l'OTAN. Je pense qu'il est important d'éviter tout malentendu ici. Il ne faut pas penser que l'Europe pourrait se débrouiller sans l'OTAN. Les deux guerres mondiales, la guerre froide, nous ont bien prouvé qu'il fallait ce lien entre l'Amérique du Nord et l'Europe pour garantir la paix en Europe. Et nous savons très bien que les efforts de l'Union européenne ne peuvent pas remplacer l'OTAN, car 80% des dépenses en matière de défense au sein de l'OTAN proviennent de pays non membres de l'Union européenne. Et puis, vous savez, il y a la Norvège, la Turquie en Europe également, qui jouent un rôle important et qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Et puis, il y a le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni qui quittent également l'Union européenne. Donc, il y a une question de géographie, une question d'argent également, qui souligne bien le fait que l'Union européenne ne peut pas remplacer l'unité transatlantique. Je salue cette unité au niveau européen, mais cette unité transatlantique est essentielle également. Elles sont complémentaires. Et, par exemple, les quatre bataillons qui sont dans les pays baltes et en Pologne sont menés en partie par des pays non membres de l'Union européenne. Et donc, cela montre bien que l'Europe et les États-Unis collaborent, et c'est bien là l'essentiel.
For the microphone.
Question d'un quotidien de la presse russe. Bien, donc, l'OTAN estime qu'il y a des violations du traité FNI de la part du traité FNI, mais les intercepteurs MK-41 se retrouvent en Roumanie notamment. Et il y a Aegis Ashore de manière générale, et cela pose également problème au niveau du traité FNI. Est-ce que vous estimez que la Russie a raison, qu'il y a violation ici? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu prouver aux Russes qu'il n'y avait pas de violation ici? Réponse. Les efforts russes en mettant l'accent sur le système de défense de missiles de l'OTAN ne fait que détourner l'attention du véritable problème, à savoir que la Russie est en train de déployer de nouveaux missiles qui peuvent porter des ogives nucléaires ici en Europe, et ce, en violation claire du traité FNI. Lorsque la Russie commence à parler des systèmes de défense antimissile de l'OTAN, c'est simplement pour détourner l'attention de ce problème essentiel. Il n'y a pas de nouveaux missiles en Europe, mais il y a de plus en plus de missiles russes en Europe qui sont en mesure d'être dotés de l'arme nucléaire. Et c'est pour cela que le traité FNI est mis en péril actuellement. Et c'est pour ça que nous encourageons la Russie à revenir à la conformité par rapport à ce traité dans les 6 mois à venir. Le système de défense antimissile balistique est un système de défense. Il n'y a pas de missiles. Nous avons des intercepteurs. Ils ne sont pas armés. Et cela fait partie de l'accord avec la Roumanie et la Pologne, bien entendu, qu'il n'y aura pas de missiles offensifs sur ces sites. Et donc, il s'agit ici de détourner l'attention, tout simplement, car le vrai problème, ce sont ces missiles russes. Question ? Médias afghans, j'ai une question au sujet de la paix en Afghanistan, en 2 volets. Vous avez mentionné l'ambassadeur Khalil Saad. Vous savez qu'un retrait militaire est l'une des conditions principales des talibans pour arriver à un accord de paix. Est-ce que cela a été abordé lors de votre réunion hier? Et s'il y a un retrait des troupes, est-ce que cela serait aligné sur le processus de paix afghan? Réponse. Tout d'abord, j'aimerais féliciter l'ambassadeur Khalilzad pour tous ses efforts et ce qu'il fait pour arriver à une solution. Nous souhaitons tous une solution politique négociée pour arriver à la paix en Afghanistan. L'ambassadeur Khalilzad m'a clairement dit qu'il ne s'agissait pas ici de négocier un retrait, mais bien de négocier un accord de paix. Alors évidemment, s'il y a un accord de paix, cela pourrait avoir des répercussions sur la présence des troupes américaines et de l'OTAN en Afghanistan. Mais cela ferait partie intégrante d'un accord de paix. Et c'est pour cela que nous sommes d'accord avec l'ambassadeur Khalil Saad lorsqu'il dit, et il l'a dit hier, que nous sommes intervenus en Afghanistan ensemble. Nous prendrons des décisions s'agissant de notre posture future en Afghanistan ensemble. Et cela se fera sur base de conditions déterminées avec les Afghans. L'objectif de l'OTAN, ce n'est pas de rester en Afghanistan pour toujours, mais bien de lutter contre le terrorisme afin de créer les conditions permettant d'arriver à une solution pacifique tout en soutenant et formant les forces afghanes. Et c'est ce que nous faisons actuellement. Et nous voyons que la situation s'est améliorée. Nous pensons qu'on pourra arriver à la paix. Le chemin est encore long, mais l'OTAN a permis d'appuyer ce processus.
Un quotidien de Moscou. Question à propos des relations entre la Russie et la Norvège. Il y a tout juste une semaine, le ministère des Affaires étrangères de la Russie a exprimé quelques préoccupations quant au nombre de sous-marins de l'OTAN dans les eaux de l'Arctique. Comment pouvez-vous expliquer de tels déplacements à proximité de la frontière entre la Russie et la Norvège? Quelle est votre réaction? La Norvège est un pays souverain, doté de ses propres capacités militaires et en mesure de circuler dans les eaux territoriales de la Norvège ainsi que dans les eaux internationales, la mer de Barents, la mer du Nord et bien d'autres mers. L'OTAN et la Norvège, nous sommes transparents. Certes, de nouveaux investissements ont été consentis dans les années passées aux capacités maritimes militaires de la Norvège, tout comme chez d'autres alliés, par exemple le Royaume-Uni ou le Danemark, dont certains bâtiments sont présents dans le Grand Nord. Mais de tels efforts se font en conformité à nos obligations internationales. Ce que nous avons constaté, cependant, c'est une montée en puissance importante de la Russie dans le Grand Nord. Et comme vous le savez, il y a une base navale importante dans la péninsule de Kola avec de nombreux sous-marins russes, dont des sous-marins dotés de la capacité nucléaire. L'OTAN est présente dans le Grand Nord. La Norvège fait partie de cette présence et c'est l'une des manières par laquelle nous assurons une dissuasion et une défense crédibles. En même temps, nous œuvrons toujours pour une situation de tension aussi basse que possible dans le Grand Nord. En effet, il y a des efforts de coopération dans le cadre du Conseil de Barents, du Conseil de l'Arctique également, s'agissant de la recherche et du sauvetage, où de nombreux pays non membres de l'OTAN travaillent avec des alliés de l'OTAN dans le Grand Nord. Monsieur le secrétaire général, pour le Moyen-Orient, les missiles et l'Irak, est-ce que vous allez aborder lors de la ministérielle la situation en Syrie et en Libye? Réponse. Ce que nous allons aborder lors de la ministérielle, ce sont les missions et les opérations de l'OTAN, dont l'Afghanistan, le Kosovo et la mission de formation en Irak. Nous ne prévoyons pas d'échange particulier à propos d'autres pays. Mais bien sûr, lorsqu'il s'agit de la lutte contre le terrorisme, la situation en Syrie trouve sa pertinence. Comme vous le savez, l'OTAN n'est pas présente sur le terrain en Syrie, mais certains alliés le sont. Et je salue les efforts de coordination des efforts de la Turquie et des États-Unis en Syrie du Nord et lorsqu'ils se rencontrent d'ailleurs en marge des réunions officielles lors de ministériels, ils se réunissent pour coordonner leurs efforts en Syrie, ce qui aura lieu bien cette fois-ci également. Presse du Monténégro. Cette année, vous allez célébrer les 70 ans de l'OTAN, mais également le 10e anniversaire de l'adhésion de pays des Balkans occidentaux. Le Monténégro a rejoint l'Alliance en 2017 et nous allons bientôt accueillir la République de Macédoine du Nord en tant que 30e membre. Comment ces élargissements auront-ils des conséquences en matière de sécurité dans la région et quelles seront les conséquences pour l'OTAN ? Réponse. L'élargissement avec des membres des Balkans occidentaux a permis de renforcer l'OTAN et j'en suis reconnaissant, mais cela a permis également de stabiliser les Balkans occidentaux et de renforcer les pays dans cette région qui ont rejoint l'OTAN, par exemple le Monténégro, ainsi que la future République de Macédoine du Nord. N'oublions pas qu'il y a, dans l'avenir assez récent, la fin des années 90, début des années 2000, dans cette région, il y avait des conflits armés, des atrocités, dans cette partie du monde, ainsi qu'une situation très dangereuse dans l'ex-République yougoslave de Macédoine, qui deviendra la République de Macédoine du Nord. Et l'OTAN a joué un rôle essentiel dans la résolution de ces conflits, a permis de mettre fin à la guerre et à stabiliser la situation. Des problèmes persistent, mais il est très encourageant d'accueillir des nouveaux membres comme la Slovénie, la Croatie, l'Albanie ou plus récemment le Monténégro et la future République de Macédoine du Nord. Et je me réjouis de souhaiter la bienvenue à la ministre Sekerinska lors de la réunion demain.
We have the lady at the back of Bloomberg.
Thank you very much.
Question de Bloomberg. Monsieur le secrétaire général, prévoyez-vous des discussions au sujet de la cybersécurité et de la Chine? L'Alliance va-t-elle aborder la menace que représentent les attaques par la Chine? Réponse. Nous allons aborder la disponibilité opérationnelle de l'OTAN, la dissuasion et la défense, dont la dimension cyber, qui sera bientôt un thème pertinent dans ce contexte. Et nous avons beaucoup amélioré nos cyberdéfenses dans ces dernières années. Nous avons adopté un engagement pour la cyberdéfense, un plan prévoyant pour les différents alliés comment renforcer les cyberdéfenses. Nous partageons nos bonnes pratiques, nos expériences. Nous réalisons les plus grands cyber-exercices au monde. Nous l'avons fait récemment en Estonie. Et nous poursuivrons de tels exercices afin d'augmenter notre réactivité, notre sensibilité à la situation, notre compréhension des cybermenaces qui proviennent de nombreuses directions différentes et de points d'origine différents. Un des problèmes principaux dans la dimension cyber, c'est l'attribution et nous œuvrons actuellement pour améliorer les méthodes d'identification et de décision s'agissant de l'attribution. Le cyber sera une dimension de nos dialogues. Cela fait partie de la réactivité accrue de l'OTAN depuis quelques années. Les alliés aborderont également, je pense, la Chine. Nous avons constaté chez plusieurs alliés des préoccupations au sujet des activités de la Chine s'agissant de l'infrastructure et du cyber. Ce sont des constats qui sont pris au sérieux par l'Alliance et nous allons aborder de telles problématiques car elle s'insère dans le cybercontexte que nous connaissons tous. Agence de presse de l'Ukraine, au sujet du traité FNI. L'OTAN envisage-t-elle des solutions politiques? Par exemple, la création d'un nouveau traité multilatéral pour remplacer le traité FNI, éventuellement en coopération avec l'Union européenne. Merci. L'OTAN est en faveur des efforts de maîtrise des armements et les soutiens. Nous sommes sur le devant de la scène en ce qui concerne les travaux de maîtrise des armements depuis de nombreuses années. Nous estimons également qu'il est important d'élargir le traité FNI afin d'inclure plus de pays, et puisque nous avons constaté que depuis la signature de l'accord en 1987 entre l'URSS et les États-Unis, d'autres pays ont investi en matière de forces nucléaires à portée intermédiaire, chez des puissances émergentes comme la Chine ou d'autres pays comme l'Inde, le Pakistan ou l'Iran sont en train d'élaborer et de déployer des armes à portée intermédiaire. Autant de raisons pour envisager un élargissement et un traité ne concernant pas que les États-Unis et la Russie. Mon message important aujourd'hui, c'est ce renforcement du régime de maîtrise des armements s'agissant des armes intermédiaires ou de tels efforts d'élargissement ou de renforcement ne sont pas au détriment du traité existant. C'est une pierre angulaire, comme je l'ai dit, et il faut consolider ce traité et le renforcer. Et je suis en désaccord total avec l'idée que, puisque tous les pays avec les armes à portée intermédiaire n'ont pas couvert par le traité existant, le rang ou rendent des violations de ce traité acceptables. C'est inacceptable de violer un traité de maîtrise des armements. Et la question de son renforcement et de son élargissement, c'est une problématique distincte. Merci. Nous avons terminé la conférence de presse. Nous nous voyons demain pour la ministérielle.